J'ai été photographié l'autre jour dans le petit salon de l'hôtel particulier de mon éditeur. Je me suis habitué, mais j'aurais rougi si je m'étais entendu prononcer, même en rêve, ce genre de phrase il y a 20 ans, quand être édité là représentait pour moi toute la gloire du monde. Ce n'est jamais vraiment agréable pourtant de se faire photographier. On sent soudain tout le poids des muscles qui composent un visage, on sourit bizarrement, les étoiles des yeux plissent à contre-temps, les coins de la bouche tirent un peu, on a les bras qui tombent comme le Pierrot de Watteau, on se sent aussi bête que lui. Le photographe venu du pays bigoudin m'a dit qu'il m'écoutait dans sa voiture. Je m'en voudrais donc de dénoncer plus avant les mystères du pacte qui lie le photographe à son modèle. Je peux juste dire qu'il déplaçait des volets articulés beige comme un assistant de Vermeer et que je faisais un peu la conversation, les yeux perdus comme l'herbe entre les pavés de la cour. Mais un studieux silence s'est rapidement réinstallé, tandis qu'il me donnait des indications de regard avec le doigt en manœuvrant doucement les menuiseries néerlandaises. C'est à ce moment, j'étais anormalement attentif, que j'ai entendu comme le déclic à contre-temps du boîtier Tieleika du photographe, une écaille de peinture tombée sur le sol. Encore tenue à un demi-silence, je crois que le problème ce n'est pas que je n'aime pas être photographié, c'est que je déteste la méditation et que rien ne me fait plus souffrir que d'avoir à me taire. J'ai dû suivre en pensée l'écaille invisible, comme on chevaucherait un long dragon chinois. Je fixais justement un tuyau d'arrosage jaune étincelant et je me suis mis à réfléchir dans cette pièce qui demandait clairement un rafraîchissement au destin de la peinture et des choses peintes en général. Teinté dans la masse, le tuyau ne craignait rien, mais le reste du monde m'est apparu aussi corruptible que ce sourire que je n'arrivais pas à tenir plus d'une seconde ou deux. Réfléchir à la vanité de la peinture pendant une séance de photographie, j'étais presque retombé à l'âge impressionniste. J'étais plus loin encore, j'étais soudain dans une voiture sur l'autoroute entre Rabat et Casablanca dans un temps incertain, aux publicités géantes pour des opérateurs téléphoniques avaient succédé une battue médiévale opposant un groupe de paysans pieds nus à un chien enragé. Mais l'instant d'après, le monde était redevenu moderne quand nous avions longé les grands cylindres étincelants des cuves en inox de l'usine Colorado, le champion marocain de la chimie, le plus grand fabricant de peinture d'Afrique. J'étais soudain arrivé dans la cave du célèbre livre d'enfant, Le Magicien des Couleurs, et je m'étais dit, réflexion enfantine, que j'avais déjà dû me faire devant les premières pages du livre, les pages en noir et blanc ou celles qui relataient les premières expérimentations monochromes du magicien, que la totalité du monde humain tel qu'il nous a pareil était dans ces grandes cuves en inox, que notre monde était un objet peint, que nous ne voyons jamais les choses, mais seulement les pigments dont on les a recouvertes. Et c'est là que j'ai repensé, aidé par le bois écaillé de ce volet qu'aurait pu manipuler Talleyrand, à cette porte que j'avais peint cet été, l'unique chef-d'œuvre de ma vie d'éphémère, compagnon du devoir. Cela m'avait anormalement passionné. J'avais peint des volets en des temps plus lointains et même un banc un été près des ruines du château de Lavaux-Guyon. Mais la peinture, en 25 ans, avait fait des progrès spectaculaires, fluides, adhésives, presque instantanément séchantes. C'était un pur délice satiné et couvrant. La porte lentement se métamorphosait en objet éternel. J'étais devenu encore plus fou que le magicien. Je me suis mis à peindre les chaises voisines, puis mes cheveux, ma fille, le sol de la courette et l'eau de la mer en rinçant mon pinceau. Et j'ai ressenti comme une injustice dans le fait que le prix du mètre carré de réel atteigne ses sommets dans les tableaux de Vermeer et que le petit pan de mur jaune de la vue de Delphes, comme un chien enragé du capitalisme, suffirait à racheter les millions d'hectares de peinture que le soleil brûle chaque année au Maroc et que Colorado restaure héroïquement. Pierrot étourdi, j'ai réalisé trop tard que j'avais oublié de demander au photographe s'il avait fait le choix de la couleur ou du noir et blanc.